Bon, donc là, je vais résumer en élargissant un peu, en prenant pas simplement le monde des Néerlandais et leur réseau, mais en voyant donc aussi ce qui se passe autour d'eux. Mais avant de commencer, il faut peut-être juste dire quelques mots. Comme vous le savez, on a appris la semaine dernière le décès de Jean de Koff, qui était quelqu'un de très important pour beaucoup d'entre nous. Il a été le président de l'école d'études en sciences sociales, où j'ai enseigné moi-même pendant 7-8 ans. Et il s'avère en fait que j'ai eu le plaisir de le rencontrer quelques fois. En fait, la première fois, il y a 25 ans, à New Delhi, quand il était de passage. Il a fait des conférences. Et comme il s'avère, on a eu donc l'occasion justement de parler du rapport entre l'histoire médiévale et l'histoire du monde musulman. Parce que, comme certains d'entre vous le savent sans doute, il a été l'élève de Maurice Lombard, un grand spécialiste du monde musulman, qui a écrit ce livre qui a marqué le milieu, c'est-à-dire l'islam dans sa première grandeur. Et comme il savait aussi, Maurice Lombard était le père de Denis Lombard, qui était quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi dans ma propre formation et la façon dont j'essaie de construire cette histoire connectée. Et voilà, donc, comme le temps passe. Alors, donc, je vais reprendre un peu la question que j'ai laissée peut-être un peu trop rapidement à la fin de la semaine dernière, c'est-à-dire cette question de comment, à partir de ces efforts de, à la fois d'écrire le monde par l'écrit, d'écrire le monde en passant par les images, les Néerlandais ont donc su avoir cette espèce de, comme j'ai utilisé la métaphore, d'un radar qui a scanné le monde presque entièrement. On a vu ça pour l'Amérique du Sud, on a vu ça un peu pour l'Amérique du Nord, dans le cas de leur colonie de Manhattan. On a vu ça certainement pour l'Afrique du Sud et pour l'Asie. Et il s'avère aussi donc qu'au début du XVIIIe siècle, quelqu'un comme François Valentine a été capable de faire un ouvrage que voulait donc brasser, prendre une grande partie de tout cela en compte, et c'est un ouvrage donc qui s'appelle Oud and New Oostindien. Mais en réalité, c'est un ouvrage qui est beaucoup mieux pour la description du monde contemporain que pour une espèce de réflexion sur l'histoire plus épaisse. Et là, on peut se demander en quelle mesure il y avait une espèce de contradiction entre ces deux tendances, c'est-à-dire la tendance vers la description parfois extrêmement minutieuse, et de l'autre côté, ce problème où les Néerlandais, manifestement, se butaient contre une culture historique qui restait, en fin de compte, je ne dirais pas totalement absente, mais qui était relativement faible. Et ce qui a fait, donc, par exemple, que dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, on a l'impression que d'autres qui ont passé par les mêmes eaux ou les mêmes terres ont souvent pris le devant. Donc, par exemple, si vous prenez le cas que je connais le mieux, c'est-à-dire le cas indien, finalement, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, il y a deux ou trois Français qui ont été beaucoup plus cités, beaucoup plus lus, c'est-à-dire François Bernier, Jean-Baptiste Tavernier, je vais revenir sur ces noms, par exemple, que n'importe quel écrivain néerlandais, car il y a chez les Néerlandais, on sent ça, une espèce d'écart, et là je reviens et j'essaie de transformer un peu la thèse de Svetlana Alper, c'est-à-dire ce rapport un peu étrange entre l'écrit et l'art donc, de dépeindre. Donc, c'est-à-dire une espèce de situation où les Néerlandais sont extrêmement forts pour tout ce qui est la description, mais pas tellement pour pouvoir faire une synthèse à partir de ça pour prendre aussi le passé par exemple, du monde musulman en compte. Alors, on a aussi vu que la façon dont ça a fonctionné, c'était à partir de réseaux. Et il faut dire que, même si très très souvent, surtout les historiens de l'économie, au XXe siècle avaient tendance de voir le fonctionnement des Néerlandais comme une espèce de fonctionnement bureaucratique où il n'y avait presque pas de visage qu'on voulait mettre au fonctionnement. Alors, en réalité, on sait, et c'est à partir d'un certain nombre de travaux de sociologues, comme Julia Adams, par exemple, qui a essayé de déconstruire un peu le réseau des grandes familles néerlandaises au XVIIe siècle. Mais il y a aussi, par exemple, même avant elle, des gens qui ont travaillé les archives des familles, donc par exemple les Trippen, qui ont été extrêmement importants, à la fois dans le commerce baltique que dans le commerce atlantique. Et ce personnage, donc extrêmement important, qui est Nicolas Witsen, qui est donc le sujet de ce livre, un peu agiographique, il faut le dire, mais c'est quelqu'un qui reste extrêmement important car c'est à la fois quelqu'un qui a joué le rôle de maire d'Amsterdam à maintes reprises, qui a été extrêmement important dans le commerce avec la Russie. Il a même écrit ce livre basé en partie sur ses propres voyages, Nord and Ost Tartaret. Mais il a aussi des rapports très intéressants un peu ailleurs dans le monde. Comme j'ai mentionné la dernière fois, il a écrit un petit récit autobiographique dans lequel, par exemple, il dit que quand il était jeune, il a été amené par son père voir Cromwell et qu'il a été, donc côtoyé la famille de Cromwell. Il a été donc assez ami avec un certain nombre de ses enfants. Mais c'est aussi quelqu'un qui a une participation énorme dans la compagnie néerlandaise. Et donc, du coup, il est capable de mettre en place un réseau d'informateurs. Et voilà un de ces informateurs les plus importants, Cornelis de Bruyn, qu'on connaît comme peintre aussi en France, qui a passé du temps donc, un peu partout en Europe, mais qui a été aussi quelqu'un qui a laissé une description très importante, par exemple, de son passage par les terres russes et son arrivée en Iran. Et notre collègue Pierre Briand, par le passé, par exemple, s'est intéressé pas mal à la description de Persepolis et les gravures sur Persepolis que Cornelis de Bruyn aurait pu produire à la fin du 17e, début du 18e siècle. Il s'avère que celui qu'on a appelé l'anonyme du Cap, qui a fait ses peintures sur le Cap, dont j'ai parlé il y a deux semaines, parfois, au départ, on avait confondu ses dessins avec les dessins de Cornelis de Bruyn, mais on sait en réalité que Cornelis de Bruyn n'a jamais été en Afrique du Sud, donc c'est impossible que ça soit lui. Mais en tout cas, Cornelis de Bruyn est extrêmement important pour plusieurs raisons, tout simplement parce qu'il faisait ses propres descriptions, qu'il était aussi un écrivain, mais aussi parce que c'était donc un collectionneur. Là, vous voyez donc Isfahan, ou une partie d'Isfahan, dessiné par Cornelis de Bruyn dans son récit de voyage, mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup contribué, par exemple, pour amener pour la première fois, ici à gauche, vous avez un portrait du roi Marat Shivaji, qui était quelqu'un qui a été l'objet d'une énorme curiosité à la fin du XVIIe siècle, parce qu'on le voyait comme quelqu'un qui pouvait finalement bouleverser l'Empire moghol, qui était capable de le faire. Et donc, on voulait, en quelque sorte, savoir quelle tête il avait. Et Cornelis de Bruyn était capable, en passant par l'Inde, de faire ses achats d'albums. Et un certain nombre de ces albums sont donc revenus en Europe. Ils ont été en grande partie perdus. On a perdu les traces, mais par exemple, là, vous aviez ce qu'on appelle le Witsen Album, qui est toujours dans le Rijksmuseum d'Amsterdam. Et de la même façon, vous aviez ici un album qui est un peu inférieur et inachevé en partie. Par exemple, vous voyez ici qu'il manque, les pieds. Mais il y a néanmoins cet album qui fait partie maintenant de la collection de la Bibliothèque nationale et qui aurait donc aussi été acheté par Cornelis de Bruyn, qui est passé par Witsen et qui finalement est arrivé pour un certain temps dans la collection d'un des rares collectionneurs italiens d'importance à l'époque, qui est le comte Baldini à Piacenza, qui avait une grande collection, lui, de chinoiserie et aussi des objets venant de l'Inde. Donc, vous voyez comment le réseau Witsen fonctionne. Il a ses agents en Inde, il a ses propres voyages, il a ses rapports politiques. J'ai mentionné Cromwell. On sait aussi, par exemple, qu'il a été plus ou moins responsable pour héberger Pierre le Grand, quand Pierre le Grand est passé à Amsterdam, mais c'est aussi quelqu'un qui a ses réseaux ailleurs. Baldini, qui est un de ses correspondants, est en rapport assez proche avec Newton. Et donc, Witsen, indirectement, aussi des rapports avec la Société royale à Londres. Donc, c'est un système qui fonctionne assez bien pour ramasser des objets. Et là, je vais revenir sur un de ces personnages du réseau Witsen, qui me semble être assez important, mais aussi assez emblématique pour un certain nombre de questions. Et ça, c'est Engelbert Kämpfer. On a beaucoup écrit sur Kämpfer. On a l'impression que tous les 10 ans, il y a 2 ou 3 livres qui sortent sur lui. C'est un personnage qui est souvent considéré comme une espèce de personnage héroïque qui, dans les échanges entre les cultures, a joué un rôle capital. Et c'est certainement le cas. Mais il y a aussi, il faut le dire, un certain niveau de mystification sur son vrai fonctionnement. Alors, c'est qui, donc, Kämpfer? Il est né, c'est un Allemand. Donc, Kämpfer, ça veut dire lutteur. Il est né en 1651. Il a fait des études à Danzig. Par la suite, il est passé en Suède. Et là, vous voyez le premier petit élément scandinave que je vais introduire et développer aujourd'hui. Donc, il a été en Suède. Et par la suite, en 1683, le roi de Suède décide d'envoyer une ambassade en Iran, en passant par la Russie. Et c'est assez caractéristique, et on va revenir sur cette habitude. Celui qu'on va choisir en tant qu'ambassadeur suédois, c'est un Hollandais. Donc, c'est celui qui s'appelle Fabricius, qui avait une certaine expérience de ce genre d'activité. Il est donc envoyé en 1683, et Kämpfer fait partie de son entourage. Donc, il va faire plus ou moins le même chemin que Witsen avait fait, ou d'autres avaient fait d'ailleurs avant, et il arrive donc à Isfahan en mars 1684. Il reste là plus à peu près 1 an et demi. Et au bout de ce temps, il va se rendre compte que les Scandinaves n'ont pas un vrai projet qui peut donner un emploi stable. Et donc, il décide de passer du côté des Néerlandais. Donc, il va prendre un emploi avec la compagnie néerlandaise, avec la VOC. Et par la suite, il va rester toujours en Iran, à Bandar Abbas, dans le port du Golfe Persique, pendant à peu près 2 ans, avant d'aller donc à Batavia, la ville capitale des Néerlandais au Java. Alors donc, on connaît tout ça sur Kämpfer, car il a aussi laissé énormément de traces. C'est quelqu'un qui s'intéresse à la fois au savoir cartographique. Donc, il fait des dessins, il fait des croquis, il s'intéresse aussi aux questions botaniques et aussi aux langues. Donc, il va aussi apprendre jusqu'à un certain point le persan. Et on a donc ce récit qu'il fait sur la cour des Safavides. Ça, c'est l'époque donc, de Shah Soleiman, dans les années 1680. Et il nous livre un peu tout cela, même si ce n'est pas publié. Ça reste donc à l'époque dans ses archives privées, mis à part les quelque chose qu'il va envoyer à Witsen. Mais alors là, on rentre dans la deuxième phase de la vie de Kämpfer. Et c'est la phase la plus connue. C'est quand il va passer de Batavia donc au Japon. Et il est au Japon pendant à peu près 2 ans, à cet endroit très étrange, je vais revenir momentanément sur ça, qui s'appelle Deshima ou Dejima, qui est donc une île artificielle créée par les Japonais dans la baie de Nagasaki. Et c'est une île artificielle que les Japonais ont créée précisément parce qu'ils voulaient tenir à l'écart les Européens. Donc les autres Européens, les Portugais et les Espagnols, qui avaient joué un rôle capital au XVIe siècle, avaient été chassés dans les années 1630. Les Néerlandais étaient les seuls Européens qui avaient le droit de rester. Bien sûr, il y avait d'autres étrangers asiatiques, mais parmi les Européens, c'était que la compagnie néerlandaise qui avait le droit de rester, mais c'était strictement contrôlé dans ce cadre qui était donné par l'île de Dejima. Alors, il reste là 2 ans, et par la suite, il va rentrer aux Pays-Bas, à Leyde, où il va faire une thèse de médecine. Par la suite, il va rentrer en Allemagne, chez lui. Il se marie, c'est un petit détail, mais il s'avère qu'il se marie avec quelqu'un qui a 14 ou 15 ans. Il a un mariage qui n'a pas un énorme succès. Mais en tout cas, il va passer les dernières années de sa vie à essayer de publier ce qu'il a écrit. Et il va réussir à publier qu'une chose importante, c'est le texte qui s'appelle Amenitatis. Mais en fait, quand il est mort en novembre 1716, il n'avait pas publié l'ouvrage le plus important qu'on connaît, c'est l'Histoire du Japon, qu'il avait écrit. Mais il n'y avait pas de preneur, car c'était écrit. Kempfer avait une habitude très fâcheuse, c'est-à-dire qu'il écrivait dans un mélange d'allemand, de français et de latin, et parfois dans la même phrase. Donc, manifestement, ce n'était pas si évident de ça de trouver un éditeur. Mais finalement, en fait, tous ces papiers, une très très grande partie de ces papiers en tout cas, ont été achetés par un grand collectionneur britannique, Sir Hans Sloane. Et donc, Sir Hans Sloane va entreprendre la publication de ce texte qui est l'Histoire du Japon. Alors là, vous voyez l'île de Jima. Là, cet aspect donc d'île artificielle symétrique et le passage totalement contrôlé. Les Néerlandais, en principe, n'avaient pas le droit d'avoir communication avec les Japonais en général. C'était que des interprètes ou des gens qui étaient totalement sous contrôle japonais, sauf dans les quelques moments, par exemple, quand ils avaient besoin de se rendre à la cour du shogun. Et alors, donc, Kempfer nous décrit tout cela, et Kempfer a néanmoins réussi à avoir pas mal d'informations sur le Japon, à la fois sur les aspects politiques, sur les aspects botaniques, sur beaucoup d'autres choses. Je vais brièvement revenir à certains de ces détails. Par exemple, il est parmi les premiers qui a fait un dessin de Ginkgo, qu'il a donc... Ça, c'est dans le texte là, qu'on le voit. Donc, il a aussi pu superviser la production des gravures. Et il est, bien sûr, aussi en communication avec un certain nombre d'autres Néerlandais qui s'intéressent à des questions de botanique, notamment ce monsieur-là, qui est peut-être le plus célèbre de tous pour le XVIIe siècle, Hendrik Adriaan van Reede, qui a produit donc, cette espèce d'ouvrage collectif qui s'appelle Hortus Malabaricus Indicus, sur les plantes de l'Inde, surtout vues de l'Inde du Sud. Donc, là encore, vous avez le réseau Kempfer qui est lié avec Witsen, et Kempfer qui a tout un réseau dans le cadre de l'Asie. Par exemple, une des personnes avec lesquelles il avait un rapport très, très proche, c'est quelqu'un qui s'appelle Herbert de Jager. Ce Herbert de Jager était un élève de Leyde, qui était un linguiste très doué, qui est resté à Batavia, et c'est donc de Jager, par exemple, qui pose énormément de questions, ça se voit dans la correspondance, sur la langue japonaise, par exemple. Et si Kempfer peut ramener des objets, des textes pour permettre l'apprentissage du japonais. Alors, donc, vous voyez que finalement, le texte de Kempfer va sortir que dans les années 1730, et c'est en fait c'est un processus de traduction très compliqué. Ça passe par Scholz, qui est un Suisse allemand. C'est payé par Sloane. Ça va être traduit en anglais. Là, vous aviez la version française, mais qui est basée sur la traduction anglaise. C'est pas une traduction directe de l'allemand. Et dans lequel donc il y a pas mal de à la fois encore savoir cartographique. Là, c'est donc le Japon dans la version de Kempfer qui sera une des versions du Japon les plus connues du XVIIIe siècle et jusqu'au XIXe siècle. Mais Kempfer, c'est aussi quelqu'un qui s'amuse pas mal parce que, par exemple, il se dessine lui-même sur le chemin de la cour du shogun. Donc, ce sont ses propres dessins. On voit qu'il n'est pas extrêmement doué, mais néanmoins, c'est quelqu'un qui a aussi donc ramassé une collection très importante d'objets, d'images. Là, c'est une image d'ailleurs d'un de mes temples préférés, qui est le Sanjusan Gendo de Kyoto. Et là, vous aviez donc une peinture japonaise et la version de Kempfer qui va sortir dans son livre. Donc, vous voyez comment ça marche. Alors, le problème, c'est essentiellement un problème de savoir comment il est arrivé à faire tout cela. Et là, j'insiste sur le fait que même s'il y a toute une industrie qui même aujourd'hui, continue à faire un peu la mythologie de Kempfer. La réalité, c'est un peu plus compliqué. Et je me base ici en grande partie sur les travaux du japonologue britannique Peter Kornicki, qui a essayé de savoir comment il fonctionnait en réalité au quotidien. Et Kornicki nous a démontré tout d'abord que Kempfer avait presque pas de connaissances de japonais. Donc, ça veut dire qu'il avait une autre façon de fonctionner. Et on se rend compte qu'en fait, il avait deux, trois, et surtout deux jeunes japonais qui étaient plus ou moins ses informateurs. Mais je dis informateurs entre beaucoup de guillemets, parce qu'ils sont en effet presque des co-auteurs. Sauf que leur nom ne va jamais apparaître dans les textes, même ni dans les préfaces. Et avec beaucoup de difficultés, finalement, par exemple, on a pu identifier un de ces personnages, et c'est quelqu'un qui s'appelle Imamura Genemon, et c'est quelqu'un donc, qui n'appartenait pas à une famille officielle de traducteurs, mais une famille qui avait, en partie des marchands, qui avait l'habitude de côtoyer les Européens. Il avait la permission de rentrer dans l'île de Deshima, et donc c'est lui qui donne à la fois des informations, qui fait des traductions, qui va lui amener des plantes, qui va aussi, donc, par exemple, constituer ses collections de peintures, etc. Aujourd'hui, ça, c'est dans l'Additional Manuscripts de la bibliothèque de la British Library. Mais là, vous voyez donc qu'en réalité, on a ce réseau européen. Mais il y a aussi un réseau caché, qui est un réseau d'asiatiques. Et on peut imaginer que la même chose aurait dû être le cas donc, dans le cadre iranien, quand il était à Isfahan et quand il était à Bandar Abbas, sauf que c'est extrêmement difficile de voir qui étaient, en fin de compte, ces gens. Alors, donc, Kempfer, c'est un cas très connu, mais il nous donne une petite idée de quelque chose qui reste assez important pendant tout le XVIIe siècle. C'est-à-dire que, finalement, il y a les Néerlandais, mais derrière les Néerlandais, souvent, il y a aussi d'autres Européens venant de l'Europe du Nord et notamment des Scandinaves et des Allemands parfois travaillant pour les Scandinaves. Donc il y a une espèce de triangulation possible entre Néerlandais, Allemands et Scandinaves. Et pour expliquer ça, il faut quand même revenir à une question que je vais juste mentionner et traiter très rapidement. Il faut se rappeler que tout cela, ça a beaucoup à voir avec le mélange qui est produit par la guerre de 30 ans. C'est-à-dire, il y avait énormément de circulation de mercenaires, de spécialistes de la guerre, etc., etc., dans le cadre de la guerre de 30 ans, donc entre 1618 et 1648. Et on verra quel effet ça a sur le fonctionnement donc, de ce monde, parfois néerlandais, mais parfois donc, pseudo-néerlandais, en quelque sorte, par exemple, avec ses ordres. Alors, le premier aspect chronologiquement que je vais mentionner, je ne vais pas aller très en détail, mais ça vaut la peine de mentionner, c'est donc le cas danois. Donc, le roi de Danemark, vous voyez à gauche ici, Christian IV, qui est quelqu'un qui s'intéresse pas mal à la question du commerce outre-mer. Il est, n'oublions pas qu'il est le beau-frère de Jacques Ier d'Angleterre et il a des rapports avec Londres. Il sait très bien ce qui se passe avec la compagnie anglaise en Asie. Mais Christian IV décide dans les années 1610 qu'il va lui aussi monter une compagnie danoise pour le commerce extérieur. Mais il a un petit problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une bourgeoisie danoise qui s'intéresse suffisamment à ce genre de choses. Et deuxièmement, il n'a pas l'expertise. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre à la tête de l'entreprise celui que vous voyez à droite, qui est Ove Gidde, qui est donc nommé amiral et qui est censé être à la tête de toutes ces activités. Mais en réalité, si on regarde la compagnie danoise est constituée à 80% des Néerlandais, c'est-à-dire des Néerlandais qui n'avaient pas pu trouver une place ou une place suffisamment importante dans le cadre de leur propre compagnie. Donc, ils vont se déguiser en quelque sorte en danois pour faire cet exercice. Et alors, donc, c'est quelque chose qui commence donc autour de 1616-1617 et ils vont donc arriver très vite à la fois au Ceylan et par la suite, ils vont donc passer ici à Trankebar, une petite ville sur la côte sud-est de l'Inde, où ils vont donc arriver à construire une forteresse. Et c'est une histoire assez remarquable parce que c'est une forteresse où les Danois sont restés à peu près 210 ans, 220 ans, jusque dans les années 1830. Mais parfois, pendant 40 ans, il n'y avait pas de navire qui arrivait du Danemark. Donc vous voyez que c'était une vie un peu étrange qu'il fallait mener pour ces Danois qui étaient dans ce contexte-là. Là, vous voyez la forteresse. Ça existe même aujourd'hui. Hein. On peut passer par là. C'est peut-être la seule forteresse d'artillerie du XVIIe siècle qui est restée plus ou moins intacte dans le sous-continent indien. Et ça, c'est donc Tranquebar. Mais si on regarde même les tractations autour de Tranquebar, c'est assez curieux. Parce qu'il s'avère, et on a ici la chance, qu'il s'avère qu'il y a donc pas mal de données autour de ce premier moment. Il y a ce texte-là, qui parmi les récits de voyage du XVIIe siècle, il faut dire, c'est parmi les plus amusants qu'on peut trouver. Bon, malheureusement, c'est en islandais, mais il y a au moins une traduction anglaise, qui est la vie de Jon Olofsson, qui a été donc parmi ces premiers qui sont partis en Asie avec les Danois. Donc là, vous voyez encore qu'il y a cette espèce de mélange islandais et bien sûr norvégien, car Norvège et Danemark, ça faisait partie du même royaume à l'époque. Donc, ils se mélangent dans ce cadre. Et donc, Olofsson, par exemple, qui était en Inde du Sud, qui nous a laissé un récit très intéressant des cours de l'Inde du Sud à l'époque. Mais on a aussi autre chose. Par exemple, on a retrouvé dans les archives de Copenhague quelque chose qui est très intéressant. C'est une espèce de lettre écrite en feuille d'or. Et c'est une lettre de permission donnée par le roi de cette région de l'Inde du Sud, et en tamoul. Donc ça, c'est la transliteration de texte. Et donc ce texte est très curieux parce que si on regarde le texte, en fait, là vous voyez, en fait, on dit Danemark ici, mais on dit ici hollandaise. Donc le roi était lui-même conscient du fait qu'il avait à voir avec des gens de Danemark, mais qui étaient un peu étranges, parce que parmi eux, il y avait celui qu'on appelle donc hollandais, hein, général. Donc le mot général, hein, apparaît en tamoul. Déjà, c'est son vin. Et en fait, celui avec qui on a à voir, c'est quelqu'un qui est mentionné maintes fois, une fois, deux fois, etc., qui s'appelle donc Roland Kalapé. Roland Kalapé, dans le texte tamoul, et c'est quelqu'un sur lequel je vais revenir dans un instant. Donc, ce texte-là dit en effet que le roi donne aux Danois le droit de construire une forteresse, mais aussi qu'il va agir contre les Portugais qui sont appelés ici les Paranqués, les Francs, comme on a un souvenir donc des croisades, quelque part dans l'océan Indien. Donc les Francs qui ont été très méchants déjà avec les Danois, et donc il parle d'une amende que les Portugais sont censés payer de 12 000 pounds, 12 000 pièces d'or dans ce contexte-là. Alors donc, c'est qui en effet ce personnage qui reçoit le texte en or du roi de Tanjore de l'Inde du Sud? C'est celui-là, Roland Krapé. Alors, on l'appelle probablement Kalapé plutôt que Krapé, parce que Krapé, ça veut dire cafard en tamoul. Donc, il se peut qu'on avait envie d'éviter un peu ce jeu de mots. Alors, donc, ce monsieur Krapé, c'est qui? En effet, c'est un Néerlandais. Il y a qui derrière lui? Il y a un certain Marcellus Boscawen, autre Néerlandais. Et quand Krapé va rentrer, celui qui va prendre sa succession, c'est Barend Pessaert, autre Néerlandais. Donc, on se retrouve dans un espèce de cadre assez mélangé. Et le roi de l'Inde du Sud, donc, qui a Raghunath Nayak, qu'on voit ici, qui a signé texte-là, en fait, il a aussi signé un autre document. Et souvent, on avait pensé que c'était le même document dans une autre version. Et vous voyez que là, il signe en bas en telugu, Raghunatha. Mais si on regarde ce document de près, on se rend compte que c'est censé être une traduction, mais ce n'est pas du tout une traduction. Car le nom de Krapé n'est pas présent. C'est un texte qui a été préfabriqué par les Danois et juste amené pour être signé sur place. Mais ce qui est encore plus curieux, c'est si vous regardez de près, c'est un texte écrit en espagnol. Donc, vous voyez, Danois, en fait, qui sont en réalité des Néerlandais, qui arrivent en Inde du Sud et qui, comme ils n'ont pas de gens suffisamment compétents pour écrire le portugais, ce qui aurait été logique, ils ont préféré donc l'espagnol qu'ils connaissaient, ils connaissaient mieux. Donc, par exemple, vous voyez ici, los moradores de Nagapattinam siempre deben, etc., etc. Alors, donc, cette entreprise danoise, donc, c'est déjà quelque chose qui est assez clairement mélangé. Ce sont des Danois qui ne sont pas des Danois, en quelque sorte. Et, mais même ça n'a pas pu vraiment marcher parce que, comme on le sait, la compagnie est fondée dans les années 1710. On commence la guerre de 30 ans et au début des années 1720, Christian IV se lance dans des expéditions très ambitieuses. Et dans la première moitié des années 1720, il va perdre beaucoup de terrain, il va se retrouver dans une situation extrêmement difficile. Et donc, du coup, il n'a pas les moyens, dans la deuxième moitié des années 1720, déjà d'avancer. Donc, qui va prendre le relève? En fait, c'est les Suédois. C'est donc surtout à la fin des années 1720, sous Gustave Adolphe, c'est les Suédois qui vont commencer donc à bâtir cet empire autour de la mer Baltique et donc qui va donner ce qu'on connaît, qui est une des grandes données du XVIIe siècle, c'est le pouvoir suédois dans l'ensemble du cadre européen. Alors, les Suédois ne vont pas se contenter avec cette présence en Europe. Tout de suite, donc dans les années 1730, ils se lancent eux aussi à l'outre-mer. Mais comme ils avaient peut-être une certaine connaissance de ce qui s'est passé avec les Danois et que ce n'était pas si facile que ça, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se lancent dans l'autre sens. Donc, les Suédois vont chercher des territoires en Amérique. Et là, c'est une petite aventure qu'on connaît qui a duré à peu près une vingtaine d'années. Entre le milieu des années 1730 et le milieu des années 1750, c'est donc cette histoire de Nouvelle-Suède, où les Suédois arrivent, ils s'installent ici, c'est donc l'embouchure de la rivière Delaware, et en fait, plus ou moins, Wilmington a été fondée par les Suédois, on le sait, ils ont monté la rivière jusqu'à Philadelphie, et donc ils sont restés là plus ou moins une vingtaine d'années. Mais alors, là, si on commence à gratter pour regarder qui sont ces Suédois, ils sont des Néerlandais. Ils sont des Néerlandais, en effet. Donc, le chef de l'entreprise suédoise, à l'époque, c'est quelqu'un qui avait, lui, en fait, il s'appelle Peter Minuit. C'est celui qui avait acheté l'île de Manhattan pour les Néerlandais des indigènes. Donc, c'est lui qui avait été à l'époque à la tête de la transaction. Et si on regarde, par exemple, la correspondance qui a survécu du personnage le plus important de la colonie de Nouvelle-Amsterdam, qui est Peter Stuyvesant, donc, dans les lettres de Stuyvesant, il passe énormément de temps à dénoncer cette personne qu'il connaît très, très bien parce qu'il avait travaillé pour les Néerlandais et maintenant, il travaille pour quelqu'un d'autre qui sont leurs rivaux en se disant maintenant sujet du roi de Suède. Alors, cette histoire, cette aventure va durer donc à peu près, comme j'ai dit, 20 ans. Finalement, dans les années 1650, les Suédois sont chassés par les Néerlandais qui, de leur tour, seront chassés un peu plus tard par les Anglais, car c'est, dans les années 1660, c'est plus ou moins la fin de la colonie néerlandaise de Nouvelle-Amsterdam aussi, et la fondation donc effective de New York. Mais c'est curieux de voir jusqu'à quel point les Néerlandais sont préoccupés par ces pseudo-Suédois. Dans leur correspondance, la place que cette histoire à l'époque. Alors, mais les Suédois, finalement, ne s'intéressent pas seulement à cet aspect-là d'un empire atlantique éventuellement donc, construit. Ils s'intéressent aussi beaucoup à la question donc, qui va au-delà de l'Amérique vers la Russie, et ça, c'est pour des raisons évidentes, et finalement, donc, aussi vers l'Asie. Donc, bien sûr, l'aspect américain, ce n'est pas quelque chose qu'il faut oublier, mais néanmoins, l'aspect asiatique reste assez crucial en fin de compte. Alors, Mais tout cela, ça commence en fait avec les rapports qu'ont les Suédois avec les Ottomans. Et c'est pour des raisons, encore une fois, assez connues. C'est l'histoire diplomatique plutôt traditionnelle. On sait que déjà à la fin du XVIe siècle, les Suédois avaient entretenu des rapports avec les Ottomans pour une question qui va revenir sans cesse, qui est la question polonaise. Donc, le problème de savoir qui va prendre la succession en Pologne, les Suédois ont leur propre candidat. Ils trouvent que les Ottomans sont donc bien utiles en tant que, pour appuyer le projet suédois du Sud. Et donc, par exemple, on a une lettre qui est envoyée par le roi suédois Jean III au sultan Mourad. Mais ça ne va rien donner, effectivement. Mais tout le long du 7e siècle, en fait, les Suédois sont toujours de retour sur ce projet-là. Donc, il y a une ambassade non officielle qui est de Bengt Oxenstierna, envoyé en 1616. Ce personnage a exercé une certaine fascination. Il faut, entre autres, mentionner que Sven Hedin a écrit une biographie de Bengt Oxenstierna au début du XXe siècle. Dans les années 1630, on va envoyer encore un Suédois entre beaucoup de guillemets qui s'appelle Paul Strasbourg, qui est en effet un Allemand. Par la suite, et je vais revenir sur ces autres expéditions, ces autres tentatives-là, dans les années 1650, il y a l'envoi de Klaas Roelumb et de Gotthard Welling, mais surtout l'ambassade de Roelumb qui a une certaine importance. Et tout cela, ça va durer donc tout au long du XVIIe siècle pour arriver finalement à cette histoire qui est très importante, mais qui va au-delà de notre cadre aujourd'hui, qui est le moment au début du XVIIIe siècle quand le roi de Suède, Charles XII, sera donc dans l'Empire ottoman en tant que réfugié, en tant qu'exilé. Il va passer donc 5 ans et à partir de ce moment-là, les rapports entre Suédois et Ottomans pendant tout le XVIIIe siècle seront extrêmement forts. Mais revenons donc à notre XVIIe siècle. Alors, le cas qui m'intéresse le plus, parce que ça donne quelques résultats assez curieux, c'est cette ambassade de Roelumb dans les années 1650. C'est quelque chose qui s'est passé par la voie terrestre et c'est un cas assez curieux parce que comme il passait par des territoires ennemis, en fait, Roelumb et toute son ambassade ont été souvent déguisés. En fait, ils se déguisaient de 3 ou 4 façons différentes pour passer par ces territoires. Et ils sont arrivés donc à Istanbul en 1657. Alors, ce qui est le plus important pour nous, c'est que ça laissait des traces au niveau à la fois des collections et des peintures. Donc ça, c'est une série de peintures, 12 peintures, qui sont les célèbres peintures de l'ambassade de Roelumb, qu'on trouve aujourd'hui en Suède. Et il y a un certain mystère autour de ça, par exemple, pour l'identité de l'artiste, ils ont été produits en Suède ou dans l'Empire ottoman, etc. Mais en tout cas, ce que ça représente, c'est la procession du sultan qui va à la chasse. Donc, vous avez des personnages et vous avez des explications en bas. Et vous voyez qu'il y a l'architecture un peu stéréotypée d'Istanbul derrière. Donc, tout cela, c'est pour donner aux Suédois une idée de ce que serait le pouvoir de l'Empire ottoman et cette espèce de mise en cérémonie de tout ce qui était donc la cour du sultan. Alors, dans le cas de Roelumb, on a beaucoup de chance car il nous a aussi laissé un journal d'ambassade et il y a aussi pas mal de correspondances autour de l'ambassade. Donc, on a un certain contexte aussi pour ces peintures-là. Mais ce qui reste assez curieux, c'est qu'encore une fois, Roelumb a l'air d'ignorer énormément de choses, même des événements capitaux qui se passent autour de lui. Par exemple, peu après son arrivée à Istanbul, on sait que celui qui est considéré comme peut-être le plus grand intellectuel ottoman du XVIIe siècle est mort. C'est quelqu'un qui s'appelle Katip Çelebi. On va avoir l'occasion de revenir sur Katip Çelebi par dans les cours à venir. C'est quelqu'un qui a été une importance énorme pour tout ce qui était la cartographie ottomane, pour le savoir, par exemple, sur l'Amérique qu'avaient les Ottomans, qui n'était pas négligeable. Et c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup écrit sur les batailles navales. C'est un chroniqueur d'envergure. Mais alors, Khatib Chelebi est mort et Rolam ne nous dit rien même sur cet événement qui a beaucoup marqué la vie culturelle d'Istanbul. Mais on sait néanmoins que Rolam avait aussi cet autre aspect-là, pas seulement de faire cette représentation visuelle, comme j'ai dit, en 12 parties, de la cour ottomane, mais c'est aussi quelqu'un qui a su faire collectionner des choses. Donc ça, c'est les albums qu'il a ramenés, et c'est la peinture ottomane des différents types de personnages. Ça correspond un peu à une tradition qui existait déjà en Europe. Si vous allez vers le XVIe siècle, par exemple, autour du voyage de Nicolas de Nicolet, français qui a été dans l'Empire ottoman, il y a quand même aussi des dessins qui sont associés. Mais là, ce sont donc des dessins qui montrent différentes sortes de types sociaux, si vous voulez. Donc là, c'est les Sipahi. Et ça, vous voyez, c'est écrit arménien. Et ainsi de suite, on a, par exemple, c'est une femme grecque. Donc, c'est aussi relativement rare parce que ce n'est pas si commun que ça de trouver des représentations de femmes dans ces peintures de l'époque. Ce n'est pas inconnu, mais ce n'est pas si connu que ça. Alors, comment est-ce qu'il a fonctionné, donc, Rolam? Et là, je reviens un peu à la question de Kempfer, mais d'une autre façon. C'est-à-dire, finalement, il y a ce jeune homme, Rolam avait moins que 30 ans probablement quand il est arrivé à Istanbul. Il appartient à la petite noblesse suédoise. Tant qu'on sache, il n'avait jamais voyagé beaucoup en dehors du monde chrétien européen. Alors, comment est-ce que ça fait que quelqu'un comme ça peut arriver dans une ville comme Istanbul et fonctionner pour avoir des informations à la fois pour fonctionner en tant que collectionneur et pour fonctionner en tant que quelqu'un qui va finalement pouvoir patronner ses peintures, parce que c'est presque sûr que c'était lui qui a fait faire ses peintures, et c'est aussi assez probable que ces peintures qu'on vient de voir donc, ont été fabriquées en Suède, avec des matériaux qui avaient été ramenés par Rolam. Mais donc, il y a cette question-là, et il y a une réponse assez facile. Et la réponse, c'est Levinus Wagner. C'est qui, donc, Levinus Wagner? Levinus Wagner, c'est le représentant des Néerlandais à Istanbul. Il est resté là pendant plusieurs décennies, et lui, il avait une très, très bonne connaissance à la fois du turc et de l'arabe, et il est devenu un des collectionneurs les plus importants des manuscrits arabes au XVIIe siècle. Par exemple, aujourd'hui, si vous regardez les fonds des manuscrits arabes à Leyde, la base, c'est la collection Wagner. Mais alors, donc, il est représentant des Néerlandais. On sait qu'il avait des rapports assez plutôt bons avec Rolam. Mais Rolam trouve qu'il est un personnage assez curieux parce qu'il ne comprend pas ce qu'il fait. Il dit que je ne comprends pas pourquoi il se dit diplomate et marchand quand en réalité, les seules choses qui l'intéressent sont les livres. Mais alors, là encore, on gratte et on se rend compte. Donc, Wagner, c'est un élève de Golius qu'on avait vu qui a fait ses méthodes d'arabe, etc. Mais Wagner lui-même, c'est un Allemand. Donc là, encore, vous aviez cette espèce de circulation constante entre ces mondes-là. Donc, employés par les Néerlandais, considérés pour un certain nombre de raisons comme un Néerlandais, mais en réalité, c'est un Allemand. Et c'est quelqu'un donc, qui a constitué, vous aviez ici donc, trois des éléments de sa collection, à droite le Shahnameh de Firdowsi, et donc aussi des autres collections de calligraphie et autres. Et c'est effectivement presque sûr que ça serait par Wagner que Rollom était passé pour accumuler ses albums et pour les ramener donc en Suède, parce que c'était presque impossible dans un cadre aussi court et avec les autres activités qu'il menait, qu'il se mette lui-même à aller dans les bazars de livres pour chercher des choses. Et en plus, il n'avait aucune façon de juger la qualité, etc. Et c'est évident donc que ces peintures-là n'étaient pas d'une qualité suffisante probablement pour Warner, mais il trouvait qu'il pouvait quand même les passer à quelqu'un qui n'était pas aussi rusé que lui. Alors donc, c'est bien possible qu'il y ait un rapport entre l'album et les peintures. C'est-à-dire qu'on avait peut-être utilisé certains nombres d'éléments, des costumes, des choses comme ça, pour arriver à ces représentations. Là, vous voyez, par exemple, c'était censé être un Hongrois, et ainsi de suite. Donc, chaque figure représente, donc ça, c'est censé être un janissaire, c'est un levantin, etc. Alors, donc, vous voyez qu'il y a cette ouverture des Suédois vers le monde musulman qui déjà commence avec l'Empire ottoman. Un des membres de l'ambassade de Rollom, en rentrant en Suède, a même publié une vie de Mahomet en latin et un petit résumé de l'histoire musulmane. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement savant, mais il faut dire que la qualité des données dépasse quand même le traité des trois imposteurs sur ce qu'on dit sur Mahomet. Mais c'est aussi intéressant de voir que dans ce petit moment autour de Rollom, il y a aussi l'autre tentative des Suédois, même de rentrer brièvement dans l'océan Indien. Et ça, c'est quelque chose qu'on a souvent oublié. Et je vous donne le cadre rapidement. Les Suédois, donc, vous voyez qui ont pris le dessus sur les Danois déjà dans les années 1620-1630, mais les Néerlandais qui craignent le pouvoir suédois vont souvent intervenir dans le cadre naval baltique pour en quelque sorte freiner l'avancée des Suédois. Ça, c'est un cas assez connu, qui est la bataille de l'Øresund en 1658, quand une flotte néerlandaise soutenue par les Danois et par les Norvégiens en partie, bien sûr, a donc attaqué une flotte suédoise avec beaucoup de succès. Et ça, c'est assez typique de ces guerres des années 1650-1660. Mais les Suédois restent néanmoins intéressés par ce monde qui va donc au-delà de cette question américaine et cette question, donc je veux dire, musulmane vue par le biais de l'Empire ottoman. Et je vais juste brièvement vous résumer une histoire, c'est l'anecdote, mais ce n'est pas totalement inintéressante, de celui que, si vous regardez les annales et les histoires navales suédoises, on trouve sous le nom de Sjöholm. Alors, Sjöholm, c'était le vice-amiral de la marine suédoise. Et il apparaît quelques fois dans les années 1650. Il a certainement lutté dans la bataille de l'Øresund. Il est mentionné comme quelqu'un qui peut débarquer à New York, à Nouvelle-Amsterdam et dans le Delaware. Les Néerlandais ont peur qu'il arrive avec une petite flotte et qu'il soit attaqué par Sjöholm. Mais en fait, l'expédition de Sjöholm qui a retenu un peu l'attention des historiens, c'est celle de 1663-65, quand Sjöholm va partir en océan Indien. Et il arrive donc dans l'océan Indien en fin 1664, plus ou moins, par, bien sûr, la route du Cap, il est à Madagascar. Et par la suite, en fait, il va arriver à la bouche de la mer Rouge. Et là, il commence à faire pas mal de bruit parce qu'il va attaquer avec un certain succès des navires musulmans. Et il y a donc un petit, pendant assez longtemps, il y avait un petit mystère sur les activités de Cyril. Par exemple, dans, je vous lis brièvement, il y a le récit anglais écrit à l'époque qui dit sur l'Empire moghol, one of the king's junks named the Ilahi, belonging to the port of Cambaya, met with a Swedes man of war that in chase fired upon him, shot into the ship, and wounded some of the men. Alors, donc, il parle de comment un navire de l'empereur moghol a été donc attaqué par un navire suédois. Et alors, les Anglais ont l'air assez étonnés par ce fait qu'il y a maintenant, pas seulement des Suédois, mais des Suédois un peu qui semblent être plutôt des pirates. Et donc, il y a aussi, ça fait pas mal de bruit, et on va revenir sur cette question parce que ça, c'est le début du grand mouvement des pirates en océan Indien dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, qui va durer jusque dans les années 1790 et qui va finir avec les histoires de Kidd et d'Avery, et qui sont eux aussi des histoires qui sont liées avec les histoires de l'Atlantique. Parce que souvent, ces gens-là, qui sont des pirates, par exemple, parfois écossais, mais financés, par exemple, de Boston. Donc, vous voyez qu'il y a un lien possible entre ces deux histoires maritimes. Mais alors, le cas de Sir Helm, qui est celui qui est mentionné là, en fait, si on commence à regarder de près, on se retrouve qu'on est toujours dans le même cas. Parce que là, c'est la pierre tombale de Sir Helm. Et ça se trouve dans la Oude Kerk à Amsterdam. Et il s'appelle Zeehelm. Et en fait, c'est Hendrik Gerritsen Zeehelm, c'est un Néerlandais. Donc, même cadre, toujours, on se dit suédois, mais on est en réalité toujours dans le même genre de situation où Zeehelm, c'est quelqu'un qui avait essayé de travailler pour les Néerlandais, qui a trouvé qu'il n'était pas suffisamment bien payé, et donc il est suffisamment payé, et donc il est passé du côté des Suédois. Et d'ailleurs, maintenant, on a ramassé beaucoup de données sur cette petite expédition. C'est une expédition assez bizarre parce que le chef était un Néerlandais, mais en fait, les gens qui travaillaient dans les navires étaient à moitié Suédois et à moitié Néerlandais. Et on sait que ce qui est arrivé, c'est justement cette espèce de scission entre les deux. On arrive à la bouche de la mer Rouge, on attaque ces navires et par la suite, on sait par les dépositions données par les Suédois en rentrant en Suède, que le problème, c'est que les Néerlandais n'ont jamais permis aux Suédois de mettre pied dans ces navires-là parce qu'ils voulaient garder le pillage pour eux-mêmes. Et donc, c'était que des Néerlandais qui avaient la permission de débarquer dans ces navires. Donc, du coup, il y a une espèce de mutinerie et les Suédois se lèvent contre les Néerlandais. Finalement, Sjöholm est tellement en désespoir qu'il va à Goa. Il va essayer de vendre son navire au vice-roi portugais. Le vice-roi portugais lui dit en effet que c'est un pirate, donc il va confisquer le navire plutôt que l'acheter. Et du coup, Sir Helm est obligé de rentrer dans un navire britannique, néerlandais, en Europe. Et il va donc finalement, en 1668, écrire une lettre assez larmoyante aux autorités en Suède en expliquant que ce n'est pas du tout sa faute. Et c'est à cause de ces problèmes qu'il a eu justement avec les Suédois, que lui, il trouve sont des gens très peu donné à l'autorité. Mais ce qui reste quand même de tout cela, c'est une espèce d'accumulation de savoir même chez les Suédois. Donc vous avez cette espèce de petit épisode, mais il faut quand même rendre compte qu'il y a des Suédois qui sont venus, qui sont restés en Asie pendant plus ou moins la deuxième moitié du XVIIe siècle. Celui qui est là en premier, Niels Madsen Kipling, qui est resté à peu près 10 ans en Asie. Il a été tout d'abord en Iran, où il était capitaine mercenaire, travaillant pour le roi de Perse, pour Shah Abbas II. Ensuite, il passe du temps au Ceylan. Et il y a une espèce de tropisme, semble-t-il, qui va attirer tous ses Suédois vers le Japon. Donc, Kipling, lui aussi, il va passer du temps au Japon. Et il publie ce texte « Korte Beskrivning » en 1667. Lui, c'est un cas. Il y a donc Olof Eriksson Willman, plus ou moins au même moment, qui lui aussi nous laisse un récit sur l'Asie. Et lui aussi qui va passer du temps au Japon, mais bien sûr dans l'Asie néerlandaise. Et on a donc Anders Thoresen, Et finalement, celui qui vraiment qui vaudrait la peine finalement d'étudier plus en détail, qui est Hermann Niklas Grimm, qui était donc médecin et spécialiste justement de la botanique, qui a produit donc pas mal de ces textes assez intéressants. Donc là, vous voyez à gauche le texte le premier texte de Kipling, et à droite donc une des gravures qui ont été donc produites par Grimm. On a soupçonné parfois que les Néerlandais ont pris des choses sans trop citer Grimm et son propre savoir, mais Grimm lui-même a fait plus tard carrière en tant que médecin en rentrant en Suède. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir de tout cela? Il faut dire quand même que si on va vers le 18e siècle, il y a des échos assez importants de tout cela. Par exemple, on sait que Kipling était dans pas seulement dans la bibliothèque de Linnaeus, mais en fait, Linnaeus le cite assez souvent et Linné trouve que c'est une source assez importante pour comprendre l'Asie. Bien sûr, Linnaeus parfois est un peu crédule. Il croit même à une histoire que raconte Kipling sur comment une femme en Inde du Sud avait des rapports sexuels avec un orang-outan et a donné naissance à un enfant qui était à moitié homme et à moitié orang-outan. Pour le reste, il y a quand même du savoir à la fois, donc je veux dire géographique, du savoir botanique, du savoir cartographique et ethnographique dans ces textes-là. Qu'il faut quand même retenir. Alors donc, si vous voyez, il y a plusieurs questions qu'on peut soulever à partir de ces données, pour ne pas rester dans la petite histoire de M. Zehel. Tout d'abord, il y a la question qui se pose sur la différence entre ces identités nationales. Et ça, c'est une question qui a été maintes fois posée. Ça a été posé, par exemple, par mon ami et collègue Anthony Pagden dans un cadre où il a essayé, par exemple, d'expliquer comment l'identité européenne a émergé en quelque sorte à l'époque. Et il y a la question qui se pose de savoir en quelle mesure, en fait, les Européens se voient en tant qu'Européens quand ils sont en dehors de l'Europe. Donc, c'est-à-dire plutôt que se voir en tant que nationalité différente, s'ils ont une espèce d'idée de collectivité. Et là encore, on peut poser la question, savoir si c'est plutôt les petites nationalités, comme par exemple, par le passé, j'ai travaillé sur les Italiens en Inde au XVIIe siècle. Et il y a très peu d'Italiens en Inde. Alors donc, du coup, le résultat, c'est que les Italiens s'accrochent aux autres Européens. Alors là, avec les Suédois, avec les Danois et les Néerlandais, la question se pose parce qu'en fait, en réalité, on voit que dans le cadre qui a probablement tout d'abord été défini par la guerre de 30 ans, mais qui a continué pendant tout le long du 17e siècle, il y a une situation qui est extrêmement brouillée sur qui est quoi dans ces cadres-là. Et c'est quelque chose sur lequel parfois des Européens, comme par exemple François Bernier, nous livre quelques réflexions très intéressantes sur cette question-là. C'est-à-dire, si on est dans l'Empire moghol, comment est-ce qu'on se présente? Est-ce qu'on se présente en tant que Français, en tant qu'Européen, en tant que Franc? Mais vous voyez que même les autres, les interlocuteurs, avaient une certaine précision parfois dans leur vocabulaire. Vous voyez, déjà en 1620, le roi de Tanjaur a cette idée que, oui, j'ai fait un traité avec le roi de Danemark, mais il y a des Néerlandais dans l'affaire. Et il a même un mot différent pour désigner les éléments, disons, nationaux, ou les nations, en tout cas, qui sont à présent. Alors, donc, cette question se pose, mais il y a aussi cette autre question qui se pose, et je ne vais pas trop développer ça aujourd'hui, mais je vais revenir sur ça. C'est bien sûr le problème de l'existence, la non-existence et les limites d'une espèce de république de l'être. C'est une question qui a été posée, par exemple, autour de gens comme Witsen, pour savoir si ce que moi j'ai décrit comme un réseau peut se définir, en effet, comme une espèce de façon de voir l'émergence d'une république où il y a les Allemands, les autres, etc. Mais la question avec laquelle je vous laisse, c'est justement, à ce moment-là, quoi faire avec les non-Européens? dans le cadre de cette République de lettres. Est-ce que, par exemple, quelqu'un comme Imamura Genemon fait partie de cette République de lettres? Parce qu'en réalité, on sait qu'en quelque sorte, il est le co-auteur caché d'un certain nombre de ces textes-là. Et on peut poser la même question pour les autres écrits dans une mesure qui serait plus ou moins grande. Donc, ce sont des problèmes qui se posent à la fois sur l'identité européenne, les limites de cette identité, la fluidité entre des cadres nationaux, mais il y a aussi là, je pense, la question qui est vraiment posée par l'expatriation dans le sens extracontinental plutôt que dans le sens d'une patrie vue d'une façon, disons, limitée et petite. Alors, donc, là, il n'y a pas de cours pour les deux semaines à venir à cause des vacances de Pâques. En revenant donc fin avril, je vais essayer d'aborder ça par une autre façon, en prenant l'optique du monde musulman et en regardant comment, par exemple, du monde musulman, on a conçu le monde extérieur. Par exemple, comment les écrivains en arabe ont abordé l'Amérique au XVIIe siècle. Comment les Ottomans, par exemple, ont conçu le monde au XVIIe siècle. Et là, j'aurai occasion, bien sûr, à revenir à ce grand personnage qui était Kateb Chelebi. Je vous remercie.